Malheureusement, vous connaissez l'histoire. Vous l'avez lue et relue un grand nombre de fois, ce qui fait que finalement, vous connaissez la fin de l'histoire avant même de commencer à la lire. Ça enlève à toute l'histoire sa force. Mais si c'était la première fois que vous lisez cette histoire, ou mieux que ça encore, si vous aviez été dans cette foule avec ces 5, 7, 8 000 personnes qui avaient écouté Jésus pendant toute la journée, vous auriez vous aussi eu faim et vous vous seriez demandé comment est-ce qu'on va manger ce soir. Aucun d'entre eux n'avait idée de ce qu'ils allaient manger ce soir-là, sauf un, le petit garçon qui avait prévu son casse-croûte et qu'il avait pris avec lui. Lui, il était prévoyant. Les autres étaient venus, ils avaient écouté Jésus, ils avaient bu ses paroles, ils avaient essayé de comprendre ce qu'il dit. Et ils avaient tellement aimé ça qu'ils voulaient encore rester avec lui. Mais Jésus ne s'est pas simplement préoccupé de les enseigner, de leur parler. Il s'est rendu compte que ces gens avaient faim. Et il va dire aux disciples, donnez-leur à manger. Après tout, les disciples étaient là pour être au service de Jésus. Mais vous imaginez la tête des disciples quand Jésus leur dit, écoutez, voilà, il y a 5 000 hommes, plus les femmes et les enfants. Allez-y, servez-leur quelque chose à manger. Mais Seigneur, on n'a rien, qu'est-ce que tu veux qu'on leur donne? Même si on va dans le fond de nos poches, on n'aura jamais assez de sous pour acheter du pain. Puis où est-ce que tu veux qu'on aille acheter du pain pour 5, 6, 7 000 personnes? Les disciples étaient complètement renversés. Jusqu'au moment où André vient avec ce petit garçon et lui dit, la seule chose qu'on a, Seigneur, c'est 5 pains et 2 poissons. Mais c'est parfait! Amenez-moi ça. Et vous auriez dû voir ce petit garçon qui était là, au premier banc. Il n'y avait pas de banc, mais au premier rang. Ce petit garçon, premier rang, qui regarde ce que Jésus veut faire avec son casse-croûte. Il avait pensé, lui, que le prédicateur avait faim et que on voulait lui donner à manger, à lui, parce qu'il avait parlé toute la journée. Non! Il voit son petit casse-croûte qui se multiplie et qui se multiplie et qui se multiplie. Je vous garantis que ce soir-là, il a eu quelque chose à raconter à sa maman. Il lui dit, maman, tu ne comprendras jamais, maman, tu n'imagineras jamais ce qui est arrivé avec le petit casse-croûte que tu m'as donné ce matin. Maman, tu n'imagineras jamais. Et il a vu ce petit casse-croûte multiplié à l'infini pour donner à manger à tout le monde. Et il nous a même dit dans le texte que vous connaissez, qu'il y en avait trop. Mais il y a un passage dans ce récit que vous connaissez bien, qui se trouve dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 14, sur lequel j'aimerais attirer votre attention ce matin. C'est le verset 19. Il y a dans cette histoire quelque chose qui n'a pas échappé à Matthieu, qui raconte cet événement. Et j'aimerais qu'il ne nous échappe pas non plus aujourd'hui. Évangile selon Matthieu, chapitre 14. Le verset 19 dit ceci. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Suivez avec moi, si vous le voulez maintenant, ce que Matthieu écrit dans ce même évangile au chapitre 26 et au verset 26. Matthieu chapitre 26. Verset 26. Il est écrit ceci. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Dans le même évangile, vous vous rendez bien compte que Matthieu ici voit un lien évident entre cet événement au début du ministère de Jésus avec la multiplication des pains et ce que Jésus fait lors de la dernière célébration de la Pâque avec ses disciples, célébration qu'il transforme dans ce que nous appelons aujourd'hui la Sainte Cène. Le même vocabulaire est employé. Il prit du pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna aux disciples. J'aimerais simplement ce matin prendre ces 3 expressions qui sont dans le texte et regarder rapidement avec vous à quoi elles correspondent. Elles vont bien entendu plus loin que ce que nous lisons à prime abord. Matthieu a bien compris qu'il y avait entre cette multiplication des pains et ce que Jésus fait avec ses disciples un lien évident. Les gens, par contre, qui ont écouté Jésus, qui ont participé à cette multiplication des pains, n'ont pas bien compris ce que Jésus voulait dire. Ils vont d'ailleurs se retrouver face à Jésus le lendemain, et Jésus va leur parler, il va leur expliquer ce que nous trouvons dans l'évangile de Jean et qui est appelé le sermon sur le pain de vie. Eux, ils en sont encore au pain et au poisson. Jésus essaye de les faire aller plus loin et de leur faire comprendre que derrière ce pain qu'il a multiplié pour eux, il y a plus que la manne qui est tombée du ciel pendant ces événements extraordinaires de l'histoire d'Israël, lorsque le peuple était dirigé par Moïse dans le désert. Il y a plus que la manne. Il y a là une nourriture qui représente Jésus. Et il doit le leur dire, ces paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, comprenez donc. Je n'en suis plus au casse-croûte maintenant, j'en suis à vous nourrir l'esprit, à être votre nourriture spirituelle. Alors, dans un premier temps, il nous est dit, Jésus prit le pain. Dans l'évangile de Jean, auquel je faisais allusion il y a un instant, Jésus va employer un langage très fort. Regardez avec moi dans le 6e chapitre de l'évangile de Jean, comment Jésus s'exprime. Lisons par exemple le verset 51. Il dit, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Verset 53, Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Vous comprenez que les gens qui sont là ont du mal à comprendre ce que Jésus veut dire. Manger sa chair et boire son sang, ça demande des explications qu'ils ne comprennent pas d'ailleurs. Mais quand Jésus prend le pain, il est en train de faire comprendre qu'il est venu prendre dans ce monde une forme qui était accessible pour nous. Il le dit d'une autre manière. Par exemple, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 20. Jésus va employer une expression là pour faire comprendre ce qu'il est venu faire. Dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 20, le verset 28 nous donne l'état d'esprit de Jésus lorsqu'il vient dans ce monde. Verset 28 dit ceci, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie comme rançon de beaucoup. » Quand Jésus prend le pain, il essaye de leur faire comprendre que lui a pris une forme de serviteur. L'épître de Paul aux Philippiens nous le fait comprendre très clairement. Regardez ce texte dans l'épître de Paul aux Philippiens au chapitre 2, où l'apôtre ici donne exactement le sens de cette venue de Jésus dans le monde. Épître de Paul aux Philippiens chapitre 2, nous lirons à partir du verset 5. Il est écrit ceci. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Jésus prit du pain et il a voulu faire comprendre qu'il était devenu ce pain accessible à tout le monde. D'ailleurs, lorsqu'il le multiplie dans cet événement auquel on a fait allusion tout à l'heure, Jésus multiplie ce pain de manière à ce qu'il en ait largement, en abondance pour tout le monde. Jésus est venu. Il est venu dans ce monde et lorsque nous pensons au sacrifice de Jésus, nous pensons à la croix, mais en réalité, le sacrifice a commencé bien avant cela. Il a commencé au moment où Jésus a accepté de venir dans un monde, de prendre une nature humaine comme la nôtre. C'était déjà là une humiliation énorme que les anges ne pouvaient pas comprendre. le sacrifice a commencé lorsque Jésus est venu parmi nous, comme nous, accessible à nous, pour nous servir comme rançon pour le pardon des péchés. Jésus a pris le pain. Et puis nous dit le texte, il rendit grâce. Il a remercié. Dans le psaume 33, il nous est dit que la louange est importante. Nous regardons ce qu'il est écrit au verset 1er. Psaume 33, verset 1er. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. La louange, c'est ce qu'il y a dans le cœur de ceux qui sont droits. C'est remercier Dieu pour ce qu'il est, pas seulement pour ce qu'il nous donne, c'est remercier Dieu pour ce qu'il est. Et l'Apocalypse, vous le savez, retentit de louanges de bout en bout. J'aimerais lire un exemple avec vous de cette louange dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 5. Apocalypse chapitre 5, nous lirons à partir du verset 11. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendais qui disaient, à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force, au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient, Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Voilà un exemple de culte que les créatures présentent à Dieu, dans lequel se trouve la louange, l'adoration et la reconnaissance pour ce que Dieu est. Il est notre Créateur, il est notre Sauveur, il est notre Père. Ainsi Jésus, tenant en main ses pains, rend grâce à Dieu. Dans l'Évangile selon Jean au chapitre 17, Jésus va aussi rendre grâce à Dieu. Dans cette prière que nous connaissons bien, il va s'exprimer de la façon suivante au verset 4. Jésus dit ceci. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Qu'est-ce que Jésus a fait sur la terre? Il est venu rendre gloire à Dieu. Toute sa vie, son ministère, tout ce qu'il a fait était une offrande de reconnaissance à la gloire de Dieu. Maintenant, ce que Jésus fait, nous sommes invités à le faire aussi. L'apôtre Paul va le faire comprendre dans ce passage de l'Épître aux Colossiens, que je vous invite à regarder avec moi, dans lequel le vocabulaire est extrêmement intéressant. Épître de Paul aux Colossiens, chapitre 3. Au verset 16, il est dit ceci. Colossiens, chapitre 3, verset 16. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. L'apôtre dit en fait, tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, faites-le de manière à rendre à Dieu des actions de grâce, des remerciements, des louanges à Dieu. Et le mot qui est employé ici pour action de grâce dans nos versions en français, c'est le mot qui a donné en français Eucharistie. Et tout d'un coup, nous faisons le lien parce que l'Eucharistie, c'est le mot qui est employé dans certains milieux chrétiens pour désigner la Sainte Cène, justement. L'apôtre Paul dit en réalité, si vous me permettez cette expression qui n'existe pas en français, mais comprenez-moi, tout ce que vous faites, bien faites-le en vivant d'une manière eucharistique, C'est-à-dire que votre vie entière soit une reconnaissance, soit une louange, soit un remerciement à Dieu. Vivez d'une manière eucharistique. Que ce ne soit pas un moment seulement, mais que ce soit l'ensemble de votre vie. Il nous a dit que Jésus a pris le pain et qu'il a rendu grâce. Ensuite, il a rompu ce pain. Et là, l'image est évidente. Prenez par exemple ce texte que nous connaissons bien dans la première épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 11. Première épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 11. Au verset 24, nous retrouvons le même vocabulaire. Et après avoir rendu grâce, dit le texte, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Jésus prit le pain. Il rendit grâce. Ensuite, il le rompit. Jésus, par ce moyen-là, donne cette image selon laquelle son corps, sa vie, a été brisée pour que nous puissions recevoir la vie, nous qui ne la méritions pas. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6, se trouve ce passage qui nous parle de la mort de Jésus. Épître aux Romains, chapitre 6, au verset 3, il est dit « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Nous sommes invités à participer à cette mort. Non pas que nous soyons perdus pour toujours, il prend, lui, cette mort sur lui-même, pour que nous puissions avoir une vie nouvelle. Jésus a été brisé pour nous, pour que nous puissions vivre, recevoir de lui la vie. D'ailleurs, le texte nous dit, Jésus prit du pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna aux disciples. Jésus s'est donné lui-même. Dans la première épître de Pierre, au chapitre 4, se trouve ce texte qui nous rappelle notre responsabilité. Première épître de Pierre, au chapitre 4. Au verset 10, il est écrit ceci. « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Ce pain que nous avons reçu, que Jésus donne à ses disciples, nous sommes invités à le partager. Et dans le texte que nous avons, auquel nous avons fait allusion, de ce miracle de la multiplication des pains, Jésus va donner le pain aux disciples et les disciples vont le distribuer à la foule. Nous sommes aujourd'hui invités à vivre la même chose, à recevoir Jésus pour nous-mêmes, à recevoir la grâce qu'il apporte dans son sacrifice, et puis à le partager avec les autres, à le répandre autour de nous, à le donner aux autres, pour que les autres aussi reçoivent cette grâce abondante de Dieu. Vous vous souvenez, Jésus dit aux disciples, « Donnez-leur vous-même à manger. » Et finalement, les disciples répondent à Jésus, « Mais nous ne pouvons pas. » Bien sûr qu'ils ne pouvaient pas, parce que cette nourriture à laquelle Jésus faisait allusion, c'est seulement lui qui peut la donner. Comme il explique dans l'Évangile de Jean au chapitre 6, « Je suis le pain de vie. » Aucun disciple ne pouvait donner ce pain-là. Aucun d'entre nous ne peut le donner. Nous pouvons seulement partager ce que nous avons reçu, ce pain que Jésus donne à chacun d'entre nous, son corps, sa vie, son sacrifice. Ainsi, aujourd'hui, devant cette table de Sainte-Seine, nous sommes invités à revivre la même chose. Jésus prit du pain, il rendit grâce, il le rompit, le donna aux disciples qui le distribuèrent à la foule. Finalement, nous sommes invités dans un premier temps à venir à Christ pour recevoir la délivrance par son sacrifice. Et puis l'ayant reçu, nous sommes invités au service. Ayant reçu cette délivrance, ayant reçu cette grâce en Jésus-Christ, nous sommes invités à l'offrir à tous ceux qui veulent aussi manger cette nourriture spirituelle et recevoir leur Sauveur. Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et il le donna aux disciples qui le distribuèrent à la foule. Amen.